Je propose que nous lisions quelques versets pour commencer dans le livre de Josué, au chapitre 4e, le verset 19. Josué 4, 19. Et le peuple monta hors du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Et ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il parla aux fils d'Israël, disant, « Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père, disant, « Que sont ces pierres ?» Vous instruirez vos fils en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte. » Afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois les fils d'Israël. » Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Araloth. Verset 9 de ce même chapitre. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et on appela le nom de ce lieu-là Gilgal, c'est-à-dire roulement, jusqu'à ce jour. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti, en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays, et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage. Il lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte la sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Chapitre 6, Jéricho était fermé, avait barré ses portes devant les fils d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré en ta main Jéricho et son roi et ses hommes vaillants. » Chapitre 7, verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. Chapitre 9, verset 6. Il s'agit de l'affaire des Gabaonites. Ils allèrent vers Josué, au camp de Gilgal. Et ils lui dirent, et aux hommes d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Verset 14. On n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux et traita alliance avec eux. Verset 16, il arriva qu'au bout de 3 jours, après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Jusque-là, cette première lecture. Chers frères et sœurs, chers amis, mon désir avec le secours du Seigneur, c'est que nous arrêtions ensemble dans 3 lieux successifs qui ont eu une voix puissante pour le peuple d'Israël dans la première partie de son histoire. Nous savons que l'histoire d'Israël, peuple terrestre de Dieu, probablement s'est déroulée sur à peu près 15 siècles, à peu près 3 fois 500 ans. Peut-être, mais les dates nous manquent, et si le Seigneur n'a pas permis que nous les sachions, nous n'avons pas à inventer, peut-être 3 fois 70 semaines d'années, c'est-à-dire 490 ans. La première période de l'histoire d'Israël nous montre Israël sortant d'Égypte, et c'est l'identité nationale, collective du peuple, qui est ainsi déclarée lorsque le peuple est sorti d'Égypte à main forte et à bras étendus. Dès lors, il est le peuple terrestre de Dieu. Il est conduit à travers le désert, les 11 journées de chemin se sont transformées en 40 ans d'épreuves à cause de la fidélité du peuple. De toute manière, Dieu a eu le dernier mot contre les ennemis du peuple et contre la faiblesse même de ce peuple. Et il introduit son peuple terrestre dans le pays de Canaan, pour nous figure des lieux célestes. La conquête du pays a duré environ une trentaine d'années. Le livre de Josué nous raconte cette période heureuse dans la vie du peuple. C'est une période de combat, de victoire. Ensuite, la longue période des juges qui a occupé la plus longue partie de cette première période de la vie d'Israël court sur 400 à 450 ans. À la fin, les choses sont arrivées à un tel point de désagrégation dans l'état moral et religieux du peuple, et c'est la dernière partie du livre des juges qui lève le voile sur ces choses effrayantes. Le peuple en est arrivé au point où l'arche a été prise par les Philistins. La gloire de l'Éternel et la gloire d'Israël s'en est allée, Ichabod. Alors le peuple revient à lui-même, et alors là, la grâce surabondante de Dieu. Et c'est cela dont nous avons à être profondément convaincus. La gloire surabondante de Dieu prépare le peuple terrestre, aussi infidèle et aussi misérable qu'il était, pour qu'il reçoive le roi, selon le cœur de Dieu, le vrai David. Après, d'ailleurs, l'intermède du roi selon la chair, Saül. C'est la première partie de l'histoire du peuple terrestre. Alors, j'aurais désiré que nous arrêtions ensemble sur trois lieux qui ont marqué trois étapes dans cette histoire du peuple, dans cette première partie de son histoire. D'abord Gilgal, ensuite Bokim et ensuite Mitzpah. D'abord Gilgal. Savons ce qui est arrivé. Le peuple est arrivé dans les plaines de Moab, au bord du fleuve du Jourdain, qui regorgeait par-dessus tous ses bords, tout le temps de la moisson. Là, le peuple est préparé d'abord à traverser le Jourdain, et ensuite préparé aux combats qui vont l'attendre. Alors plusieurs choses se passent qui, pour chacune d'elles, ont une portée morale et spirituelle pour nous de toute importance. Et nous allons essayer de les retracer ensemble. Et toutes ces choses sont liées à cette première étape du peuple, Gilgal. Gilgal, géographiquement, se trouve à l'ouest du Jourdain et à proximité de Jéricho. Donc en traversant le Jourdain, il fallait que le peuple s'arrête à Gilgal, et effectivement, ça a été sa première étape, son premier lieu de campement, avant d'engager les conquêtes, les combats et les victoires, la victoire de Jéricho. Lorsque le peuple a traversé le Jourdain, le peuple a été préparé. Dieu avait averti que des choses qu'il n'avait jamais vues, eh bien le peuple en serait le témoin, des choses merveilleuses. Et ces choses merveilleuses, c'est que les eaux du fleuve de la mort, qui regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson, ces eaux allaient être coupées, l'arche, figure précieuse de Christ, allait ouvrir ce chemin au peuple terrestre, les sacrificateurs portaient l'arche entre la première dans les eaux du Jourdain et ressort la dernière, lorsque tout le peuple a traversé. Lorsque le peuple est là dans le Jourdain, deux choses sont faites. La première, c'est que 12 pierres sont tirées du lit du fleuve et sont déposées précisément à Gilgal. Et nous venons d'en lire quelque chose au chapitre 4, au verset 21. Ces premières pierres, et l'ordre n'est pas indifférent. Et pour nous, pour comprendre ces choses spirituellement, gardons l'ordre de l'Écriture. Ces pierres étaient donc sorties du lit du fleuve, elles étaient déposées dans le pays de promesse, dans le pays de Canaan. Canaan, pour nous, est la figure des lieux célestes. Alors l'image est évidente. 12 pierres, pourquoi ? C'était l'unité du peuple terrestre. Et nous l'avons rappelé hier soir encore, il y a l'unité du corps de Christ qui est scellée par l'œuvre de Christ. Nous avons à nous appliquer à garder cette unité pratique par le lien de la paix qui est l'unité de l'esprit. Et l'unité du corps de Christ, elle est faite, formée par l'œuvre, le sacrifice de Christ. Et nous sommes tous ensemble unis à lui en un seul corps. Donc l'unité du corps de Christ, représentée en figure par l'unité des 12 tribus d'Israël ne formant qu'un peuple, le peuple terrestre, nous parle du peuple céleste de Dieu. Ces 12 pierres montrent que sorties du lit du fleuve, image de la mort, ces pierres sont posées dans le pays de promesse, dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec Christ, en lui et avec lui. Et par puissance et grâce, nous sommes introduits, spirituellement parlant maintenant, avant que ce soit effectivement au retour du Seigneur en grâce pour nous prendre, nous sommes introduits spirituellement pour être assis dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, là où nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en lui. Il est question d'abord des pierres qui nous parlent de notre résurrection avec Christ, et ensuite d'un deuxième groupe de 12 pierres aussi, qui nous parlent de la même unité. Et ces pierres, où étaient-elles? Elles étaient posées au lieu même où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche lorsque le peuple avait traversé à sec les eaux de la mort et du jugement. Ces pierres, remarquablement, n'étaient pas comme les premières, visibles. La parole précise que lorsque le peuple avait traversé, les eaux du Jourdain retournèrent dans le lit du fleuve et roulèrent comme auparavant. Ces pierres, donc, sont une image de foi et nous parlent de ce qu'est la mort du croyant avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous sommes aussi morts avec Christ. Mais pour pouvoir comprendre, réaliser notre mort avec Christ, il faut d'abord que nous comprenions quelle est la puissance de la vie de Christ, de la vie de résurrection en nous, pour nous faire saisir ces choses par la foi. Les pierres sorties du lit du fleuve et déposées à Gilgal étaient un objet de témoignage. D'abord, là encore, l'ordre n'est pas indifférent, à l'égard des familles d'Israël. Pour nous, le premier témoignage s'adresse à nos enfants. Il y a un passage de génération. Nous arrivons bientôt à la fin de notre vie. Il y a les enfants qui nous suivent et nos petits-enfants. Et c'est une belle expérience de chacun de nous qui avançons dans la vie sur la terre. Nos enfants naturellement posent la question, mais que sont ces pierres? Il y a eu deux signes, peut-être d'autres, mais en tout cas deux, qui étaient donnés à Israël pour se souvenir de cette grande œuvre. La première, c'est le signe de la Pâque, et le deuxième, c'est le signe de la traversée du Jourdain. Deux fois, dans Exode 12 et dans Josué 4, les pères devaient être à même de répondre spontanément à la question que leurs enfants allaient leur poser, « Que sont ces pierres pour vous ?» Bien, c'est une pierre qui rappelle l'œuvre de délivrance. À la Pâque, Dieu était un juge et Israël échappait au jugement à cause du sacrifice de l'agneau. À la mer Rouge, Dieu était un libérateur et le peuple échappait par la mort, pour nous l'image de la mort de Christ, à la maison de servitude pour être libéré. Au Jourdain, le peuple passe du désert au pays de promesse. Alors rappelons à nos chers jeunes que l'histoire d'Israël est arrivée en séquences successives et nous parle de ce que sont des expériences que nous pouvons et que nous devons faire dans le cours même de notre vie chrétienne, de sorte que les choses, pour ainsi dire, pour le croyant, en figure, se superposent à ce qui était pour Israël des choses qui sont arrivées successivement dans leur histoire. Donc la première chose que dont nous allons à nous souvenir, c'est qu'il y avait 12 pierres qui nous parlent du fait que nous sommes ressuscités avec Christ. Il y avait 12 pierres qui nous parlent du fait que nous sommes morts avec Christ. Alors nous allons regarder en Colossiens 3 quelle est la portée de ces deux choses en lisant deux passages. Colossiens 3, verset 1, « Si vous donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2, 3 et 4. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, etc. Première chose, ressuscité. Deuxième chose, mort. Eh bien, l'ordre des pierres. La conséquence. Vous êtes ressuscités avec Christ. Eh bien maintenant, l'activité énergique de la foi, cherchez les choses qui sont en haut. Considérez maintenant comment Christ est tout et en tous, verset 11. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Le fait que nous sommes ressuscités avec Christ doit nous transformer, pour ainsi dire, en croyants célestes et nous détacher de la scène présente. En même temps, vous êtes morts. Et si vous êtes morts, on n'a plus donc à se faire mourir. L'affaire est faite. D'ailleurs, la question de la circoncision, elle était faite une fois pour toutes. Alors pourquoi est-il dit mortifié ? Bien parce que la puissance du mal la puissance de la chair qui est encore en nous peut être active. Nous n'avons pas à la faire mourir, puisque ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Nous avons changé d'habit. Nous avons maintenant revêtu le nouvel homme, ayant dépouillé le vieil homme. Nous avons extérieurement, c'est un habit, un vêtement différent. Mais en même temps, nous avons à faire attention à ce que l'énergie de la chair ne se manifeste pas en nous. Vous êtes mort, mortifié. Vous êtes ressuscité, cherchez les choses qui sont en haut. Alors ceci coupe court au fait qu'actuellement, c'est autre chose qu'une question de terminologie, ou une question de mots employés pour cela, pour laisser entendre que le croyant n'a pas en lui-même la cohabitation des deux natures. La parole est tout à fait claire. Nous avons changé de vêtements, le vieil homme a été changé et remplacé par le nouvel homme, revêtu, nous avons revêtu le nouvel homme, renouvelé en connaissance. Et les passages d'Éphésiens et de Colossiens se complètent merveilleusement, mais en même temps nous sommes invités à mettre à mort les actions du corps pour vivre. L'appel, vous êtes mort, mortifié. Tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Et l'apôtre Paul avait l'autorité morale pour le faire, pour nous dire de faire ces choses-là, cet appel à saisir cette position par la foi, parce que lui-même, en 2 Corinthiens 4, nous disait, portant toujours partout dans le corps le mourir de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair, dans notre corps. Voilà donc ce que sont les choses pour nous. Alors je voudrais rassurer nos chers jeunes. Vous allez découvrir, après votre conversion, que en fait, d'un certain point de vue, tout est changé, et d'un autre point de vue, il y a bien des choses avec lesquelles vous allez vous retrouver en conflit. Alors, l'existence du conflit dans l'homme intérieur, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a opposition flagrante de nature, de disposition intérieure entre l'esprit et la chair. Alors, l'existence même de ce conflit ne doit pas être pour vous un sujet d'inquiétude. Au contraire, c'est un sujet d'encouragement. S'il y a conflit, c'est bien maintenant que Dieu est en vous, que la nouvelle nature vous a été donnée par Christ lui-même qui est notre vie. Autrement, ceux qui sont du monde, croyez-moi, Satan les laisse tranquilles parce qu'il les a. Il les aura avec lui dans l'éternité de malheur. Ceux maintenant qui ont été arrachés à sa puissance, Satan se déchaîne pour essayer de leur faire perdre leur course puisqu'il ne peut pas leur arracher la vie. Il y a donc les pierres du Jourdain sorties en figure la résurrection. Les pierres posées dans le Jourdain en souvenir de la mort avec Christ. Que l'Église revienne plus souvent au bord du fleuve de la mort et qu'elle contemple là, dans une contemplation entièrement par la foi, sans chose visible. Regardez, les pierres étaient cachées, elles étaient recouvertes par les eaux. Qu'elle contemple ce que Christ a été. Lui qui a traversé tout seul ces eaux du jugement et de la mort pour que la mort éternelle ne soit pas notre part et que nous échappions au jugement final, comme on l'a dit hier soir devant le grand trône blanc. Maintenant, les applications pratiques. Première chose que Josué fait, selon l'instruction divine, et c'est le troisième point qui nous arrête à Gilgal, eh bien, c'est la circoncision. Alors là encore, la parole nous aide beaucoup. L'image nous est donnée dans l'Ancien Testament et la portée morale dans le Nouveau. Peu d'épîtres, d'ailleurs, parlent de la circoncision. En tout cas, l'épître aux Colossiens est probablement la plus claire, puisqu'elle réunit à la fois la circoncision et le baptême, comme étant deux figures de la mort de Christ. La circoncision, c'était une opération douloureuse pour l'homme dans la chair. C'était d'ailleurs le symbole de la première mise à part pour Dieu d'un peuple que Dieu s'était acquis, qu'il avait choisi. Abraham a été le premier qui a reçu le signe de la circoncision. La circoncision n'était pas de Moïse, n'était pas liée essentiellement à la loi, bien qu'elle ait été confirmée par la loi. Mais elle était des pères, elle n'est pas de Moïse, mais elle est des pères. Le Seigneur lui-même le dit en Jean 7. La circoncision pour nous maintenant nous parle d'une manière pratique de ce qui nous est arrivé par la grâce de Dieu à notre conversion, c'est-à-dire le fait d'avoir dépouillé la chair, d'avoir dépouillé le vieil homme pour revêtir le nouvel homme, mais de ce qui doit être maintenant notre habitude, l'exercice habituel de notre foi pour nous amener à ce dépouillement habituel de ce qui est en nous, qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Gilgal signifie roulement. Effectivement, c'était le roulement de l'opprobre d'Égypte. Israël n'avait pas été circoncis pendant la traversée du désert. Israël portait, pour ainsi dire, encore les stigmates, les marques de la maison de servitude. Ces choses devaient être entièrement sorties du peuple terrestre. Il ne devait plus y avoir de traces de ce passage de l'Égypte. Et maintenant, dans la colline d'Aralot, avec des couteaux de pierre, eh bien, Josué circoncit les fils d'Israël, et maintenant le peuple est entièrement délivré de ce souvenir, de cette trace de l'Égypte. C'est le côté négatif des choses. Mais rappelons-nous que l'Écriture est toujours parfaitement équilibrée et nous donne le côté négatif, le côté du jugement de soi-même et en même temps le côté positif, le côté qui nous encourage, qui nous édifie. Le cœur ne peut pas être vide. Pratiquement, pour que notre cœur soit libéré des mauvaises pensées, il faut qu'il soit entièrement absorbé par Christ. Et alors là, c'est la beauté de la chose suivante qui nous est présentée en Josué 5. C'est que maintenant, le peuple va être nourri. Nourri de deux manières différentes. C'est la quatrième chose qui se présente ici. D'abord la Pâque. Elle est célébrée ici, dans les plaines de Jéricho. Selon l'ordonnance, elle avait été présentée, formée en Exode 12, nombre 9, nous donnait les instructions pour que la Pâque étant célébrée la première fois, à la deuxième année de la traversée du désert, qu'elle puisse être célébrée également. Des dispositions de grâce particulières étaient données à Israël pour que, si les Israélites n'étaient pas en mesure, en état moral, de manger la Pâque, ils pouvaient le faire le mois d'après. Maintenant, le peuple traverse le Jourdain, et là, dans les plaines de Jéricho, on se souvient de cette œuvre selon laquelle Israël était sorti d'Égypte. C'était le souvenir de la première des trois délivrances, dans l'ordre la Pâque, la traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain. Mais en même temps, la Pâque et la traversée de la mer Rouge allaient ensemble. C'est dans le souvenir du repas de l'agneau pascal qu'on gardait le souvenir de cette délivrance. Le peuple échappait au jugement et le peuple était sorti de la maison de servitude. Donc nous savons que la Pâque est pour nous la plus belle anticipation de la mort de Christ. Et quel est pour nous maintenant le souvenir de cette mort? Eh bien, évidemment, c'est la scène du Seigneur. C'est l'avant-dernière étape de ce qui nous a été présenté hier dans l'ordre de Dieu vers l'homme, c'est-à-dire de l'expérience pratique de quelqu'un qui rencontre Dieu et qui maintenant désire se souvenir de Christ et de son œuvre avant qu'il réalise pleinement. 1 Corinthiens 11, de ce point de vue-là, précède 1 Corinthiens 10, avant qu'il ne réalise pleinement que le peuple céleste de Dieu a une unité qui est célébrée précisément par la fraction du pain. Mais selon l'ordre divin, les choses sont inverses. Elles nous ont présentées habituellement, et on l'a bien rappelé hier soir, dans l'ordre des sacrifices, par exemple, dans l'ordre de la description du tabernacle, c'est le chemin de Dieu vers l'homme. Mais nous faisons, nous, l'ordre inverse dans l'expérience de notre vie chrétienne, lorsque nous rencontrons Dieu d'abord, lorsque nous rencontrons Christ, lorsque nous nous tournons, et c'est ça le chemin de la conversion et de la repentance, lorsque nous réalisons maintenant la puissance de la grâce, la puissance de l'amour, la grâce de Christ, les secours de l'Esprit-Saint, le désir profond que l'âme a se souvenir maintenant de ce que Christ a fait pour lui. Et je pense que nos jeunes qui ont pris leur place parmi nous, qui désirent maintenant souvenir de Christ, confirmeront que habituellement, on a le sens profond, le désir du cœur de comprendre ce qu'est le mémorial de la mort de Christ, avant de comprendre mieux, et il nous faut la vie chrétienne pour le faire, de comprendre mieux ce qu'est l'implication du fait que la scène et la table du Seigneur sont la même expression, sous des aspects différents, d'une même vérité indissolublement liée. Les deux choses ne peuvent pas se séparer. De sorte que si essentiellement la responsabilité individuelle est en jeu quant à l'état moral du croyant pour prendre part à la scène du Seigneur, de la même manière, le corps tout entier est engagé par l'acte de l'un ou de l'autre. On ne peut pas se soustraire aux liens du corps qui sont un immense privilège pour la gloire de Christ, mais qui en même temps forment la mesure même de nos responsabilités. Et ces choses finalement se retrouvent dans l'histoire du peuple terrestre. La première chose donc que le peuple prend comme nourriture dans le pays, quel beau moment, c'est la Pâque. Célèbre la Pâque. La chose remarquable, c'est que la deuxième nourriture disparaît, celle qui avait été les secours de Christ pour nous dans le désert, la manne. C'était une nourriture céleste. Le Seigneur en grâce, en Jean 6, va expliquer au peuple terrestre qu'en fait, il y a bien maintenant beaucoup plus. La manne était une nourriture envoyée pour prendre soin des pères dans le désert, et maintenant c'est Christ lui-même qui était le vrai pain divin, le vrai pain de Dieu descendu sur la terre pour donner la vie au monde. Cette manne qui était donc les secours divins, célestes, de Dieu à l'égard de son peuple terrestre, cesse. Pour nous, qu'est-ce que la manne? Eh bien, c'est ce que Christ est pour chacun de nous, chacun de vous, frères et sœurs, chacun de vous, chers amis, ce qu'il est pour moi, dans les difficultés et les peines de la vie. Il me comprend comme personne ne peut comprendre. Il comprend nos peines, nos souffrances, nos découragements, nos exercices. Il y répond parfaitement. C'est une forme de secours divin merveilleux. Mais ce n'est pas ce dont le peuple ici est maintenant nourri en figure. Immédiatement après la Pâque, sa nourriture change et il mange du vieux blé du pays. Le vieux blé du pays nous parle de Christ, des conseils et des pensées éternelles de Dieu. Indépendamment de l'application de ce qu'est la grâce de Christ aux difficultés, aux peines et aux souffrances de la traversée du désert. Si j'osais faire une comparaison, peut-être que nous comprenons ce qu'est ce vieux blé du pays lorsque nous arrêtons et nous engageons les uns et les autres à le faire, lorsque nous arrêtons à la fin des dernières paroles que le Seigneur a prononcées justement, pour ainsi dire, à la fin du désert pour les disciples, en Jean 17. Il n'y a plus question de qui que ce soit, que quelque titre que ce soit. Non pas Christ, non pas Jésus le nom de son abaissement, non pas Elohim Shaddai, non pas Jéhovah Shammah, l'Éternel est là, non pas le Très-Haut, non pas le Dieu Tout-Puissant. Christ, Fils éternel du Père, l'objet de la dilection, de la joie du cœur du Père de toute éternité, le Fils unique qui est dans le sein du Père, ce Fils qui, en dehors du temps, avant le temps, en Proverbe 8, nous est présenté comme la sagesse merveilleuse, en relation avec le temps, parole faite chair, mais c'est autre chose. Voilà ce Christ-là dont nos âmes doivent se nourrir. Mais alors, comme nous sommes encore dans le corps, justement, vulnérables, en danger, justement, de négocier avec la chair, de négocier avec le vieil homme, regardez comment la parole est merveilleusement précise. Au verset 11, le vieux blé du pays, les pains sans levain, le grain rôti. Le vieux blé du pays, les pains sans levain, le grain rôti. Le grain rôti a été soumis à l'action du feu, symbole du jugement. C'est le souvenir des souffrances expiatoires de Christ qui ne peut être perdu ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'éternité. En même temps, les pains sans levain sont le symbole d'une vie pratique chrétienne exempte de mal et de souillure. Exempte de mal et de souillure dans quelque forme que ce soit, à commencer par le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Si nous nous parlions davantage la vérité les uns et les autres, nous serions probablement les uns et les autres gardés de ce terrible danger du levain, ne serait-ce que dans les relations fraternelles. En même temps, nous devons être gardés à la fois du mal moral et du mal doctrinal, c'est-à-dire achever la sainteté dans la crainte de Dieu en nous purifiant nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit. 2 Corinthiens 6. Et ces choses vont ensemble, les pains sans levain sont encadrés par le vieux blé et le grain rôti. Le peuple donc, s'il a dû connaître le côté négatif de souffrance, de la mise de côté de la chair, de l'application en puissance de la mort de Christ au vieil homme, plus exactement à la chair qui est en nous, l'expression est peut-être plus précise, en même temps, le peuple est encouragé et nourri et soutenu. Il faut être nourri, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir des aliments pour pouvoir combattre. C'est bien de cela qu'il s'agit, puisque les combats vont commencer à partir du chapitre suivant. Il reste une dernière chose, c'est que Christ en figure se présente, l'épée nue, symbole du jugement. Ce sera d'ailleurs l'ordre dans lequel il viendra lorsqu'il instaurera les jugements guerriers sur la terre en Apocalypse 19. Son épée nue dans sa main, le symbole de la sainteté, du jugement. Il se présente comme chef de l'armée de l'Éternel. il y a quelqu'un à la tête des armées de l'Éternel. Nous sommes non seulement un peuple d'adorateurs et de sacrificateurs, mais nous sommes invités maintenant à combattre les combats de l'Éternel, à être des bons soldats de Jésus-Christ. Il y a un chef de cette armée, c'est Christ lui-même. Sorte la préparation au combat implique la mise à mort et la mise de côté de la chair, le jugement de soi-même, l'abaissement personnel, individuel en esprit. L'orgueil de notre esprit est insoutenable dans la présence de Dieu. Il faut être nourri aux vraies sources du bonheur, de la vie, des aliments spirituels de nos âmes. Il faut reconnaître Christ dans sa seigneurie sur chacun de nous et dans son autorité sur les assemblées. N'avons-nous pas beaucoup de choses à revoir dans nos vies, dans la vie des assemblées ici, maintenant? N'avons-nous pas laissé disparaître dans une grande mesure la crainte de Dieu, la manière dont Christ lui-même est le chef, la tête du corps de l'assemblée, justement soumise à Christ, et par voie de conséquence, soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors comment les choses sont-elles passées dans le livre de Josué? Ce livre de Josué est dans l'ensemble un livre de victoire. Jusqu'au chapitre 5 inclus, nous avons la préparation, à travers ces du journal, la préparation aux conquêtes. Dans les chapitres 6 à 12 inclus, nous avons les combats, les conquêtes du pays. D'abord Jéricho, ensuite Haï. Le peuple se porte vers les ennemis du midi, les renverse, se porte vers les ennemis du nord. Les ennemis ont été séparés pour qu'ils ne puissent pas se réunir ensemble en coalition contre peuple terrestre. Et dans l'ensemble, le pays a été nettoyé de ses ennemis, au moins pour un temps, malheureusement. Alors où était la source des victoires? La source des victoires était dans la confiance en Dieu et dans l'absence de confiance en soi. Et de ce point de vue-là, Gilgal, qui a été la première étape de la vie, de la marche du peuple dans la terre d'Israël, en Canaan, a été aussi le point de ralliement du peuple, à partir duquel le peuple partait pour les conquêtes et où il revenait après celle-ci. Et vous retrouverez facilement les plusieurs mentions de Gilgal comme étant ce point de départ des conquêtes et ce point de retour, de ralliement après les conquêtes. Deux exemples ne confirment pas ce que je viens de dire. Un premier exemple confirme, qui est le plus beau, le plus remarquable, c'est la prise de Jéricho. Tout est d'un ordre tellement remarquable et divin que nous restons sans voix. C'est merveilleux. Si au moins le peuple d'Israël avait continué comme cela. Si l'Église avait continué dans son printemps, comme au temps des apôtres. Et nous en sommes bien loin. Alors Israël a remporté une victoire complète sur Jéricho, et c'est le symbole de ce que sera le renversement de la puissance de l'adversaire et de la puissance du mal dans les derniers jours, pendant l'histoire du monde. Et tout de suite après, qu'est-il arrivé? Deux choses. Le monde est entré dans le cœur des croyants et dans la marche. D'un côté Haï, et de l'autre côté, Gabaon. Dans le cas d'Haï, les choses sont remarquablement claires et tout aussi tristes que claires. D'abord, il y avait quelque chose de caché. C'est l'affaire d'Achan. Mais le peuple était très content de lui. Rien n'est plus difficile dans notre vie chrétienne que de remporter deux victoires de suite. Même et surtout, j'oserais dire, si le Seigneur nous a donné lui-même la victoire la première fois de façon évidente. Parce que souvent, notre cœur se substitue à la grâce de Christ pour nous imputer à nous-mêmes le secret de la victoire. C'est exactement ce qu'a fait Israël à l'affaire d'Haï. Bon, l'affaire d'Haï était en fait réglée à l'avance, le peuple ne pouvait pas remporter la victoire parce qu'il y avait du mal et Dieu était contre son peuple. Et le mal était encore caché. Qu'a fait le peuple? D'abord, et là, Josué n'a pas été le conducteur qui serait pour nous un type de Christ. On part de Jéricho, au lieu de partir de Gilgal, première erreur. On est tout à fait content de soi et on n'envoie que quelques hommes à la conquête de cette petite ville. Haï signifie monceau de ruines. Et en fait, effectivement, la ville a été prise avec beaucoup de difficultés, après une stratégie extrêmement élaborée, avec finalement peu de gloire pour le peuple terrestre. Mais le point essentiel, c'est qu'on avait oublié Gilgal et que le peuple était content de lui. Quand on va à Gilgal, on n'est pas content de soi. On a la conscience profonde de sa faiblesse. Et je pense que nous avons probablement trop tendance à parler de notre faiblesse. Surtout, nous allons décourager les jeunes. Nous devrions plus la réaliser et moins en parler. Mais le découragement n'opère en aucune manière la restauration. ayant des cœurs sensibles et soyons gardés du découragement. Il me semble que c'est quelque chose que nous devons toujours avoir devant nous. Alors Dieu, en grâce merveilleuse, donne le secret. Pourquoi le peuple a été battu à Haï ? Il y a justement parce qu'il est parti de la mauvaise place, Jéricho à la place de Gilgal, et Jéricho, rappelez-vous, était maintenant le lieu de la malédiction. C'est une folie de partir de ce lieu-là. On avait oublié d'interroger la bouche de l'Éternel ici. On ne voit pas d'ailleurs que, comme Josué l'avait fait au moment de la prise de Jéricho, il a interrogé l'Éternel. Et puis le peuple était content de lui. Le peuple a été battu. Et puis en fait, l'affaire de Dacan a montré que le mal a été finalement manifesté et nous montre aussi surabondamment ce qu'est la solidarité, la responsabilité collective des saints comme étant formée en un seul corps dans ces questions si graves, si attristantes, mais si importantes de discipline ecclésiastique, de discipline collective. Première intervention du mal donc dans l'assemblée d'Israël après la prise de Jéricho a été l'affaire d'Haï. Et c'est pour nous le symbole du mal qui s'introduit dans notre cœur. Qu'a fait Achan ? Il a pris un manteau de Shinar. Vous savez bien où se trouve Shinar, dans la plaine de Babylone. C'est le siège de l'idolâtrie. Il a pris un lingot d'or. Il a pris un manteau de Shinar. Il a pris des choses qui avaient du prix pour le monde et qui en avaient pour son cœur. La deuxième chose, qui est probablement plus grave encore, c'est celle des Gabaonites. Alors là, le piège est plus subtil. D'abord parce que les Gabaonites sont venus avec subtilité en trompant Israël. Et Israël était bien à Gilgal. Alors voilà une grande leçon que nous avons à apprendre. Ne clamons pas fort que nous passons à Gilgal le jugement de soi-même. Ne disons pas que nous sommes à Gilgal. Réalisons-le. Faute de quoi ? Eh bien, rappelons-nous ce terrible message des prophètes Amos et Osée, sauf erreur. Toute leur méchanceté est à Gilgal. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beersheba. Gilgal ira certainement en captivité. Ne nous glorifions pas justement de notre propre faiblesse. Ne nous glorifions pas de cette capacité que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir pratiquement porter la mort de Jésus à la chair qui est en nous. Réalisons-le dans le secret de notre cœur. C'est là que se produisait, que se déclaraient les secrets. Et la victoire était remportée quand même dans les combats extérieurs. Alors le peuple, lorsque les Gabaonites sont venus, en trompant Israël, Josué et les princes sont tombés dans le piège. On était à Gilgal, et c'est à Gilgal que les Gabaonites sont venus. Mais la parole nous aide énormément. Verset chapitre 9, verset 14. On n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et traita alliance avec eux pour les laisser vivre. À quoi nous sert d'être à Gilgal si effectivement nous n'avons pas réalisé ce que Gilgal représente spirituellement pour nous? Une trentaine d'années. Et ça a été un maillon remarquable, bien court historiquement parlant, dans l'histoire du peuple terrestre, puisqu'en fait, tout le pays de Canaan a été conquis à ce moment-là. Alors, ce dont les fils d'Israël devaient se souvenir est le passage des générations devait transmettre le message d'une génération à l'autre. C'était ce souvenir de la sortie d'Égypte et de la Pâque, ce souvenir de la traversée du Jourdain. Il y a une chose que Josué a ajoutée. Et avant de terminer ce bref historique de l'affaire de Josué, je voudrais lire un verset dans le livre de Josué au chapitre 24. Aux deux versets seulement. À la fin du verset 15, page 180. « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel, dit Josué. » Et au verset 25, Josué fit alliance avec le peuple en ce jour-là. Il lui établit un statut et une ordonnance à Sichem. Verset 26, il prit une grande pierre et l'adressa là sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Et là, c'est une pierre qui est témoin. Les deux témoignages précédents et le troisième témoignage est ici ajouté. Maintenant, le sort du peuple, on oserait peut-être dire, est scellé. Maintenant, le peuple va montrer ce qu'il avait dans le cœur. Alors, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître maintenant, dans l'histoire des juges, notre propre histoire. Alors, chers jeunes, nous vous laissons une situation qui est presque désespérée. Eh bien, nous vous supplions de ne pas vous décourager. Ne faites pas comme nous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et soyez plus fidèles que vos aînés. Ça n'est pas impossible. Parce que le temps des juges c'est 400 450 ans de faiblesse. C'est 400 450 ans de découragement, de lassitude, d'infidélité. Mais c'est le temps des plus merveilleux réveils. Alors, n'est-ce pas un extraordinaire encouragement pour vous? Alors, ne nous imitez pas, nous n'avons pas été des modèles, mais ne découragez pas pour autant, parce que ce que vous avez à faire, c'est à regarder à Christ et non pas à nous. On va regarder quelque chose, justement, pour que nous prenions ces choses à cœur, mais en même temps, que nous ne soyons pas accablés et découragés. L'histoire générale du peuple sous les juges, elle est résumée, c'est tout à fait beau, dans les deux premiers chapitres, plus exactement jusqu'au chapitre 3, le verset 4. Et c'est le passage au deuxième point où je voulais que nous arrêtions ce soir, c'est Bokim. Bokim explique finalement tout le livre des juges. Gilgal, c'est la clé de Josué. Bokim, c'est la clé des juges. Bokim n'est pas très loin de Gilgal. Il y avait autrefois un ange de l'Éternel qui était à Gilgal. Maintenant, l'ange de l'Éternel monte de Gilgal à Bokim, chapitre 2, le premier verset. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et il dit, « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai introduit dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères, et j'ai dit, je ne romprai jamais mon alliance. » Verset 2 à la fin, « Vous n'avez pas écouté ma voix, pourquoi avez-vous fait cela ?» Aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas de devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. Et il arrivera que comme l'ange de l'Éternel disait ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleura, et ils appelèrent le nom de ce lieu-là, Bokim. Ils sacrifièrent là à l'Éternel. Dans le premier chapitre, c'est l'affaire, l'histoire, le résumé du déclin d'Israël. Dans le chapitre 2, les versets 1 à 5, c'est le résumé qui explique tout le restant du livre, le résumé du passage de Gilgal à Bokim. Alors pourquoi l'ange de l'Éternel est-il monté à Gilgal? Et pourquoi a-t-il rencontré Israël? C'est bien à eux qu'il parle. Les a-t-il rencontrés à Bokim? Eh bien parce que Israël avait délaissé Gilgal. L'ange y était resté seul. Et pourtant Gilgal, nous l'avons bien noté tout à l'heure, c'était non seulement le lieu de la bénédiction, le lieu de la nourriture, mais c'était le secret pour remporter les victoires, pour combattre contre les ennemis et avoir la victoire sur nos ennemis. Eh bien, Gilgal, il n'y avait plus personne d'Israël, et l'ange était seul. Il monte à Bokim, et Bokim, comme son nom l'indique, c'est le lieu des pleurs. Alors nous voyons deux choses qui sont dites dans la bouche même de Dieu, de l'ange de l'Éternel. La première, c'est que Dieu assire son peuple de sa propre fidélité, et deuxième, c'est que Dieu constate l'infidélité du peuple. C'est exactement notre histoire. C'est le résumé exact de l'histoire de 20 siècles de l'Église. C'est l'histoire de la fidélité merveilleuse de Dieu. Mais c'est l'histoire aussi de notre propre infidélité. Alors prenons conscience des choses. Alors pourquoi les choses sont-elles arrivées ainsi? Bien parce qu'il y a une première génération. Cette première génération, elle se termine en Josué 24. Josué qui s'en va. On met les os de Joseph en terre. Et puis, Éléazar, fils d'Aaron. C'est chose remarquable que Josué 24, versets 29 à 33, se termine sur trois morts, sur trois ensevelissements. Maintenant, les choses changent. Et la chose remarquable, d'ailleurs, c'est que l'histoire du peuple recommence en Josué 2, versets 6 et suivants, et reprend avec la rétrospective pour enchaîner sur Josué. Alors, qu'est-il arrivé? C'est exactement ce qui est arrivé à l'Église. Il y a eu les apôtres. Et tout de suite après les apôtres, des personnes qui avaient reçu le témoignage des apôtres, mais qui n'avaient pas vu l'œuvre de Dieu, qui n'avaient pas connu Christ, qui n'avaient pas mangé et bu en sa présence. Si vous recherchez un peu ce que les pères de l'Église ont pu raconter, c'est à peu près incroyable de réaliser ce que ces hommes ont pu dire d'infidélité, c'était de véritable fausse doctrine. Pas tous, parce que Dieu s'est toujours conservé un témoignage au milieu de son peuple céleste, dans le monde. Mais c'est dramatique la manière dont les choses se sont détériorées après la première génération des apôtres, mais même pas de leur vivant. Regardez la différence entre 1 Timothée et 2 Timothée. Il y a 4 ou 5 ans d'écart entre les dates de rédaction des deux épîtres. Mais c'est un véritable désastre. La maison de Dieu et son ordre dans la première, la grande maison où plus personne ne retrouve rien. Mais alors, 20 siècles après, où en sommes-nous?
Je crois qu'il y a une grâce extraordinaire. Quelqu'un a fait remarquer que les réveils, soit dans le peuple terrestre, soit dans le peuple céleste de Dieu sur la terre, dans l'Église, n'ont guère duré plus de 100 ans. Alors qu'il reste encore quelque chose de ce merveilleux travail de l'Esprit de Dieu en 1830, c'est-à-dire il y a à peu près 160 ans, c'est une grâce merveilleuse. Eh bien, soyons sensibles à cette grâce, mais ne lassons pas justement la patience et la grâce de Dieu à cet égard. Alors il est élevé une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'œuvre de l'Éternel, qui n'avait pas connu véritablement Josué, comme de la même manière d'ailleurs les choses étaient arrivées au moment de Joseph. Alors qu'est-il arrivé? Le résumé, il est terrible. Verset 11 du chapitre 2, les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et servirent les Baals. L'expression se trouve sept fois, introduit d'ailleurs toujours la même séquence d'événements. D'abord, les fils d'Israël font ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Dieu, en jugement, se tourne contre eux, les livre en leurs ennemis et quelquefois même, plus dramatiquement encore, les livre aux mains de leurs faux dieux. Ensuite, les fils d'Israël, dans une immense détresse, crient à l'Éternel. Dieu répond plus ou moins vite pour que la conscience du peuple soit broyée, soit retournée, et que le peuple revienne de cœur à lui. Ensuite, il lui envoie un juge. Le juge délivre le peuple, et le peuple connaît une période plus ou moins longue de repos, de paix et de bénédiction. Et les choses recommencent, six fois de suite. Il y a eu six réveils de suite. Malheureusement, le temps va nous manquer de donner plus que quelques jalons. Si nous ne sommes pas trop fatigués, je vais encore continuer quelques moments. Donc les points essentiels, ce sont ceux-là. L'explication du livre des juges, c'est que l'ange de l'Éternel monte de Gilgal à Bochim parce que Israël n'était plus venu à Gilgal. Dieu n'a pas pris l'initiative d'abandonner son peuple. Dieu continue à aimer son peuple. Et c'est justement parce qu'il aime son peuple qu'il va le châtier pour son propre bien. Alors comment fait-il? Verset 14, expression terrible, il les vendit en la main de leurs ennemis. Ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Il a dit quelque part dans Osée 4, « Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le faire. » Alors, faisons attention à la contrepartie de cette déclaration qui touche le peuple terrestre, au peuple céleste. Il n'y a aucune situation dans la vie chrétienne ou dans la vie des assemblées qui soit sans issue. Parce que dans le temps de la grâce, les ressources de la grâce sont toujours à la disposition. Et Dieu ne peut manquer de répondre à celui qui a le cœur brisé et humilié. Tu ne mépriseras pas le cœur brisé et humilié. Sous Israël, ça était différent. Le gouvernement du Dieu s'exerçait, c'est toujours le même Dieu, mais les dispositions, les relations de Dieu avec son peuple étaient différentes. Alors Dieu laisse les ennemis, il n'est plus du tout question de conquête, de nouveaux territoires à conquérir, et au contraire, Dieu ne se hâte pas de déposséder les ennemis, et met son peuple à l'épreuve selon trois dispositions particulières. Chapitre 2, verset 22, « Afin d'éprouver par elle Israël s'il garderait la voie de l'Éternel pour y marcher. » Chapitre 3, verset 2, « Afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce que c'est que la guerre. » Et chapitre 3, verset 4, « Pour éprouver par elle Israël pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandés à leur père par Moïse. » Les trois épreuves du peuple sont donc dans l'ordre. La première, c'est la marche. Alors, chers jeunes, ne cherchez pas des sentiers écartés, des sentiers détournés. Essayez de revenir à ces sentiers anciens pour le bien de vos âmes. Jérémie 3. Ce ne sont pas les sentiers qu'il faut changer. Ce ne sont pas ce que nous avons compris de l'enseignement de l'Écriture. C'est notre cœur. C'est les buts de notre vie. Ce sont les objets de nos cœurs et de nos affections. Voilà où il faut revenir. Il faut restaurer parmi nous, dans notre cœur à chacun, la crainte de Dieu. Il faut que Christ reprenne cette place dans nos affections, et si le premier amour est abandonné, c'est à cela qu'il faut remonter. Parce que changer les sentiers anciens pour changer pour autre chose que personne ne connaît, ça n'est certainement pas le chemin de la bénédiction. En même temps, vous n'éviterez pas la guerre, les conflits. Les conflits sont la part du chrétien, intérieurement et extérieurement. Hébreux 12 est aussi clair que possible. Il y a les ennemis de l'extérieur, il y a les combats intérieurs. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, éprouver par elle Israël pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel. La parole a-t-elle pour nous, comme pour nos pères, comme pour les devanciers, il y a 50, 100 ou 150 ans, tous ceux que nous avons connus, honorés parmi nous, et ce n'est pas la peine de citer des noms, leurs écrits subsistent. Hébreux 13 nous parle à trois reprises des conducteurs. La parole avait pour eux une autorité absolue. A-t-elle cette même autorité sur nos cœurs? Ou sommes-nous en train de transiger, ou quelquefois même, plus triste encore, de nous combattre à coups de versets? C'est probablement le plus triste de ce qui peut arriver dans les assemblées. Rappelons-nous donc que nous avons resté dans les sentiers que nous comprenons être ceux que l'Écriture nous enseigne. Nous avons accepté le principe de combattre contre les ennemis, mais Dieu nous donne les ressources pour la victoire. Et le troisième, c'est que la parole de Dieu doit avoir l'autorité suprême sur nous. À partir du chapitre 3, verset 4, 5, c'est l'histoire des juges, l'histoire de ces réveils successifs, l'histoire d'Israël qui retombe dans les errements anciens, c'est-à-dire qui retombe à pactiser avec ses ennemis, au mariage profane et à adorer les faux dieux, Dieu qui a pitié de son peuple et qui lui envoie un juge pour le délivrer. Comme le temps manque, je veux juste placer quatre jalons de cette longue histoire des juges en citant les quatre juges qui sont justement précisément cités dans la nuée des hommes de foi de Hébreux 11. Et dans l'ordre où nous les trouvons dans les juges, parce qu'ils soient deux fois renversés en Hébreux 11, nous trouvons dans le deuxième réveil, nous trouvons Déborah et Barak. C'est Barak qui est signalé en Hébreux 11, et c'est Déborah, en fait, qui a pris la première place, bien que, comme femme, mère en Israël, aimant profondément le peuple à laquelle elle était rattachée, cette femme est un merveilleux exemple pour nos sœurs de quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa place et qui a été une aide extraordinaire dans la compagnie d'Israël. Alors Barak est un type de Christ. Et ce type, nous le trouvons d'une manière merveilleuse dans le cantique de Déborah. Cantique de Déborah et Barak. Probablement c'est Déborah qui a dû le composer. Enfin, elle l'a chanté avec Barak, c'est bien ça. C'est le cantique de Déborah. Et le centre de ce cantique, c'est au verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène captif tes captifs, fils d'Abinoam. Alors descends, toi, le résidu des nobles, comme son peuple. C'est Juges 5, le verset 12. C'est la quatrième des huit parties de ce cantique, et c'est le centre moral du cantique. Le titre de ce cantique pourrait être Réveille-toi, élève-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Nous retrouvons la même expression employée deux fois, doublée et trois fois de suite, dans le prophète Ésaïe. C'est une merveilleuse expression. Réveille-toi, réveille-toi et lève-toi, Barak. Alors, qui est Barak? Barak est un homme à une foi hésitante, alors que Déborah, au contraire, avait une foi active et énergique. Mais l'un et l'autre ont accompli le conseil de Dieu pour que le peuple soit délivré. Alors ici, Barak est invité par Déborah, qui parle par la puissance de l'Esprit de Dieu, à se lever pour emmener captifs ses captifs. C'est-à-dire emmener captifs ceux qui nous tenaient captifs. C'est précisément le psaume 68 que l'apôtre Paul cite en Éphésiens 4. Ayant emmené captive la captivité, il a reçu des dons dans l'homme, psaume 68. Et Éphésiens 4, l'apôtre traduit volontairement, ayant emmené captive la captivité, il a donné des dons dans l'homme. Emmener captif la captivité, c'est d'avoir remporté la victoire sur la mort. C'est Christ ressuscité qui est présenté à notre foi ici. Alors quel est cet homme, Christ Jésus, qui est ressuscité par la gloire du Père, qui ayant été exalté à la droite de Dieu, a reçu l'Esprit Saint promis, acte 2. Bien, c'est celui qui maintenant, aimant son assemblée sur la terre, ayant comme homme glorifié, oint de l'Esprit Saint dans la gloire. Reçu de Dieu des dons en lui dans l'homme, les donne maintenant volontairement à son assemblée sur la terre pour son édification, c'est-à-dire les dons de l'évangéliste pour amener des âmes et les dons des pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres pour édifier le troupeau, le faire croître et le bénir, pour qu'en définitive le conseil de Dieu s'accomplisse. Alors ce qu'il y a de magnifique, c'est que ce cantique, selon Sérons de près l'Écriture, n'a été chanté que par deux personnes. Ça n'était pas un temps de gloire brillante. Rappelez-vous qu'en Exode 15, 600 000 hommes de pied, plus les femmes, plus les enfants, les familles, donc largement plus d'un million de personnes, devaient chanter à l'unisson. Ça devait être un spectacle proprement extraordinaire. Que chante-t-il? Mais il chante la gloire de Christ en pensée, par la foi, la gloire de Christ qui a remporté la victoire sur la mort et la délivrance qui suit cette victoire sur la mort. Et que fait Déborah? eh bien elle chante la délivrance qui est la conséquence de la résurrection de Christ. N'est-ce pas encore plus merveilleux? Les deux choses ne sont pas indépendantes, mais la résurrection va au-delà de la mort. Alors il faut que dans un temps de ruine, cette femme accompagnée d'un homme qui n'avait guère d'énergie, et nous avons facilement intérêt à nous reconnaître les uns et les autres, les frères, dans cette affaire, eh bien que font-ils? Eh bien ils chantent la gloire de Christ et ils préfigurent ce qu'est le service maintenant de Christ, homme glorieux dans la gloire, pour s'occuper de sa chair assemblée sur la terre. N'est-ce pas un merveilleux trait d'encouragement? Alors voilà le premier trait de Barak. Le deuxième, c'est Gédéon. Alors j'encourage les jeunes à relire les chapitres 6 et 7 des Juges, pour nous montrer que, au ce moment où Madian opprimait Israël, il y avait deux choses dramatiques. Au moment d'Éhud, le juge d'avant, eh bien, le peuple n'avait plus d'armes. On le trouve dans le cantique de Déborah. Maintenant, le peuple n'a plus de vivres. Voilà ce qui nous arrive lorsque nous ne serrons pas de près l'Écriture, lorsqu'elle n'est pas à la fois l'arme, la puissance de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, c'est clair, l'Esprit, la parole nous le dit, et lorsqu'elle n'est pas la nourriture de notre cœur. Nous sommes affamés et désarmés. Nous serons donc une proie facile pour l'ennemi. Eh bien, il y en avait un qui n'avait pas pris son parti de cette affaire, et qui ne voulait pas se laisser affamer par Madian. C'était dans une petite famille, d'une petite tribu, faible au milieu des faibles, eh bien lui, il battait son froment dans le pressoir, de devant Madian. Et le Seigneur lui adresse 12 paroles. Vous les rechercherez, c'est de toute beauté. Pour l'appeler à son service et le former. Il descend aux sources de Harod. De 32 000 personnes, il n'en reste que 300. Des armes stupides pour l'égard du monde. Une cruche qui n'a pas de valeur. Un flambeau. Qu'avait-il? Un flambeau, une cruche et une trompette. C'est pas avec ça qu'on combat les ennemis. Et où était la victoire? Elle était remportée auparavant. De la même manière que les fils d'Israël s'étaient arrêtés à Gilgal avant. Il faut d'abord passer à Gilgal avant de monter à Jéricho. Alors, le Gilgal de Gédéon, c'était très simple. C'est quelque chose qui nous manque aussi profondément. JND a dit, l'obéissance puis la force, voilà l'ordre selon Dieu. Il y a bien des choses qui n'allaient pas dans la maison de Gédéon, et en particulier par son père. Son père qui était un idolâtre. Alors, lorsque Gédéon a la conscience que Dieu l'appelle, la première chose qu'il fait, c'est de bâtir un autel, l'autel de l'adorateur. La deuxième chose qu'il fait, mais là, selon les instructions divines, eh bien, c'est de bâtir un deuxième autel, qui est l'autel de l'obéissance et du renoncement. Et comment est-il bâti cet autel? Avec les stèles de Baal qui ont été démolies. Et c'est ensuite que la force de Dieu lui est communiquée. L'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, il sonna de la trompette, chapitre 6, verset 34. Et auparavant, dans ce premier autel, le deuxième type de Christ dans les quatre juges de Hébreux 11, nous le voyons dans cette offrande qu'il offre sur le rocher. Une offrande imparfaite, la chair était bouillie, il amène le bouillon. Où était le feu du jugement? Eh bien, Dieu complète ce qui manquait pour que son offrande de ce serviteur fidèle, Gédéon, soit acceptable à Dieu lui-même. C'est le feu qui monte du rocher et qui consume ce sacrifice, qui rend ainsi le sacrifice agréable à Dieu. Ensuite, le troisième exemple des juges, c'est Jephté. L'origine de Jephté est honteuse. Jephté ne manifeste pas de bonne disposition au début. Enfin, toujours est-il que, chose remarquable, il est chassé par ses frères, à Tob, étranger au milieu de ses frères, et il revient appelé par eux pour les délivrer. N'est-ce pas exactement ce que Christ a été? Le vrai Joseph. S'affliger de la brèche de Joseph. N'oublions pas ce que cela représente. Joseph a été le fils. Joseph a été le bien-aimé de son père, et rejeté quant à sa personne. On ne pouvait pas le supporter, comme Moïse a été rejeté dans sa mission. Eh bien, Christ a été rejeté de ses frères. Il a cherché des consolateurs, il n'en a pas trouvé. Il a cherché ses frères, il a cherché ses disciples. Qui sont restés autour de la croix? Jean est revenu un petit peu après. Les autres sont tous dispersés, ils sont enfuis. Il était absolument tout seul. Christ a été le vrai Jephté. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin, parce que le vœu insensé de Jephté et puis la triste affaire d'Éphraïm avec Shibboleth et Sibboleth, ce ne sont pas des choses brillantes dans la vie de ce juge, pas plus d'ailleurs que la fin de la vie de Gédéon, qui explique d'ailleurs la parenthèse d'Abimelech et la dégringolade morale de la suite. Enfin, n'entrons pas dans trop de détails. Le dernier, le juge qui a été appelé de la manière la plus merveilleuse, c'est le dernier des quatre juges de Hébreux 11, c'est Samson. Samson était nazaréen dès avant le ventre de sa mère. que devait-on faire à son égard? Eh bien, sa mère, justement, devait se garder des choses qui n'auraient pas permis à son fils d'être un vrai Nazaréen. C'est ainsi que, chers frères et sœurs qui avaient des enfants, c'est dans une marche pieuse, pratique, dans la crainte du Seigneur, que vous pouvez effectivement, sans beaucoup de paroles, convaincre vos enfants et les élever dans la crainte et sous les avertissements et la discipline du Seigneur Jésus lui-même. Et c'est le premier commandement avec promesse, celui des enfants, d'obéir et d'honorer leurs parents. Donc, Samson part dans ce service d'une manière tout à fait merveilleuse. On trouve d'ailleurs dans cette offrande de Manoah quelque chose qui rappelle l'offrande de Gédéon. Alors, qu'est-il arrivé dans Samson? Eh bien, il est tombé dans les trois choses dont nous parle l'épître de Jean. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie qui touche les affections et l'esprit. C'est les trois femmes qui ont ruiné sa vie sur la terre. Pourtant, il avait jugé les fils d'Israël pendant 20 ans et Dieu a accordé une grande délivrance à son peuple par son moyen. Pourquoi ces choses étaient-elles arrivées? Parce qu'il n'avait pas veillé sur ses affections. Et pourtant, il y a deux traits qui nous parlent de Christ. Je n'oserais pas dire qu'on puisse aller plus loin et dire qu'il est vraiment une image de Christ. Chapitre 15, Juge 15, verset 18. Il eut une très grande soif, il cria à l'Éternel. Dieu fendit le rocher et crut qu'il était à l'acquis, et il en sortit de l'eau. Et puis verset 3 du chapitre 16. Au milieu de la nuit, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, il les mit sur ses épaules et les porta au sommet de la montagne, qui est en face de Hébron. Hébron qui, comme toujours dans l'Écriture, est une figure de la mort. Qui est celui-là qui a brisé les barres de fer et qui a mis en pièces les portes d'airain? C'est Christ lui-même dans la puissance de la mort et dans la puissance de la vie et de la résurrection qui les a portés au lieu de la mort, qui est pour nous maintenant le lieu de la victoire. Il a eu une très grande soif, Samson. Une des deux prières. La première parce qu'il avait soif, la deuxième parce qu'il voulait se venger de ses ennemis. Eh bien, Dieu a répondu et il a frappé un rocher. Nous n'avons pas laissé courir notre imagination. Le rocher frappé, quel est-il? Christ. 1 Corinthiens 10, c'est ainsi que Samson, à la fin de sa vie, nous parle de Christ, quatre juges. Mais les choses ont été en dégradant de plus en plus. Si on voit quand même une grande mesure d'énergie du peuple pour suivre les premiers juges, au moment de Samson, on voit le peuple qui se tourne contre le juge en lui disant « Mais ne sais-tu pas, Samson, que les Philistins dominent sur nous ?» C'est dramatique d'en être arrivé là. Alors pourquoi ces choses étaient-elles arrivées? Parce que, en fait, le peuple s'était laissé aller à l'idolâtrie, à la violence, et à l'immoralité. Et c'est la fin des juges, des chapitres 17 à 21, qui nous en parle. Je termine en disant un mot sur Mitzpah. Mitzpah, on le trouve peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas mentionné de manière importante en Juge 20, verset 1. L'assemblée se réunit comme un seul homme vers l'Éternel à Mitzpah. Juge 20, verset 1. C'est dans la terrible affaire de Guiba de Benjamin. Cette affaire a été tellement terrible que même Osée, au chapitre 10 de sa prophétie, nous parle de cette terrible affaire de Guiba de Benjamin. Nous savons cette horrible affaire du Lévite sa femme qui avait été pratiquement déshonorée. C'était une affaire épouvantable. Que des choses comme ça puissent se produire, se passer au milieu d'un peuple qui portait le nom de Dieu. Mais nous sommes parfaitement capables des mêmes choses si la grâce de Dieu nous garde. Ne vous imaginez pas que vous soyez, que je sois meilleur que le brigand sur la croix qui à la dernière heure de sa vie a reconnu que c'est Christ qui avait raison et que le Christ n'avait rien fait qu'il ne se dût faire et que lui portait justement la pénalité des choses qu'il avait commises. Placé dans les mêmes circonstances qu'un homme de la rue, qu'un meurtrier, nous ferions les mêmes choses si la grâce de Dieu nous gardait. Le fond n'est pas différent. Jusqu'à la fin, il faut la grâce de Christ qui me garde tous les jours et toutes les minutes de ma vie. Alors, ces choses sont arrivées, que faut-il faire? Israël manque complètement pour commencer à appréhender la situation. Ils se réunissent à Mitzpah comme un seul homme. Il semble vraiment qu'il y ait une unanimité pour juger le mal. Mais en fait, juger le mal sans s'humilier, ça n'est pas le jugement. C'est un jugement judiciaire, c'est un manque de grâce. Or en fait, la discipline, même dans sa forme extrême, ne doit être que l'expression de l'amour. Christ et Dieu nous disciplinent parce qu'ils nous aiment Et la prérogative de l'amour, justement, c'est d'exercer la discipline, même la discipline ecclésiastique, la discipline collective de l'Assemblée. Et c'est ce qu'Israël avait complètement manqué de comprendre à ce moment-là. Alors que font-ils? Ils montent à Bethel et commencent à s'humilier. Que leur est-il arrivé? Si vous regardez les détails, c'est dramatique. Ils ont perdu 40 000 personnes, et la tribu de Benjamin, qui avait exactement 26 700 personnes, chapitre 20, verset 15, en a perdu 25 100. La chose remarquable, c'est que cette guerre fratricide a causé plus de morts du côté des tribus d'Israël qui défendaient le bien contre le mal que la tribu de Benjamin qui a perdu tous ses guerriers. La guerre fratricide ne conduit qu'au désastre. Dans les affaires qui nous arrivent, il n'y aura, il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. Nous sommes tous appelés à nous humilier profondément et à nous abaisser sous la puissante main de Dieu. Alors Israël ne l'avait pas compris sur le moment même. Il faut tourner deux pages après Ruth, qui est le beau livre « La grâce et de la foi », qui est comme un, pour ainsi dire, le commentaire d'encouragement de ce triste livre des juges, pour regarder ce que va être en définitive la restauration d'Israël. Cette restauration, elle a tardé. Et c'est dans le début du livre de Samuel que nous la trouvons. Les choses ont continué à se dégrader. Vous savez qu'il y a eu 12 juges. On ne compte pas Abimélec, qui n'est jamais nommé juge. Il a saisi le pouvoir par surprise. Il a régné sur Israël pendant 3 ans. Il n'a fait d'ailleurs qu'un désastre. Ce n'est pas un juge. Il y en a eu 12 autres. 12 juges. A commencé par Othniel et a terminé par Samson. Et il y en a eu un 13e. Et c'est l'écriture même, sous la plume de Paul, qu'il appelle le juge. C'est Samuel. Il a jugé Israël tous les jours de sa vie. Samuel, en voilà un bel exemple, qui est associé à Moïse, en Jérémie 15. Il est associé aussi à Aaron et à Phinès, si je me souviens bien, dans un psaume. Samuel sort à un moment triste de l'histoire d'Israël et annonce une terrible affaire qui allait arriver dans Élie, le prophète, et ses deux fils qui s'étaient avilis. Alors, les choses sont-elles, comment ces choses sont-elles produites? Elles sont arrivées à un point tel qu'Israël a même perdu l'arche. Alors que l'arche à Gilgal était le centre de la vie du peuple dans Josué, l'arche n'est pas mentionnée dans les juges, sauf au moment de Mitzpah et de Bethel, dans l'affaire de Gibat Benjamin. Et l'arche, maintenant, on va la chercher pour combattre contre les Philistins, alors que l'Israël était dans un état moral catastrophique. Mais l'inévitable est arrivé, les Philistins sont emparés de l'arche. La seule personne qui a eu la conscience des choses, qui était-elle? C'est la belle-fille d'Élie, la femme de Phinès. Regardez au chapitre 3, chapitre 4, 1 Samuel 4. Son cœur tremblait pour l'arche de Dieu, est-il dit d'Élie. Verset 19, sa belle-fille, femme de Phinès, était enceinte près d'accoucher. Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Verset 21, elle ne répondit pas, n'y fit pas d'attention. Elle appela l'enfant Ichabod, disant la gloire s'en est allée d'Israël. Parce que l'arche de Dieu était prise, et à cause de son beau-père et de son mari, elle dit la gloire s'en est allée d'Israël, l'arche de Dieu est prise. Alors où en est le peuple? Il n'y a plus d'arche, présence réelle, personnelle de Dieu au milieu de son peuple. Tout est en faillite, l'ennemi a la haute main. Alors c'est là. La fin de l'homme, je ne sais pas si vous comprenez, la fin de l'homme, c'est le commencement de Dieu. Alors s'il n'y a plus de ressources en nous, alors Dieu peut intervenir. Tant que nous débattrons, Dieu n'interviendra pas. Il faut que le peuple touche le fond de la vague. Faudra-t-il que nous en arrivions là? C'est le chapitre suivant qui montre que tout change. Mais les choses sont aussi simples qu'elles sont tellement évidentes, elles se résument en un seul mot. 1 Samuel 7, longtemps, Kiriat Jearim, 20 années sans l'arche. C'est le dernier moment d'épreuve du peuple avant la restauration. Verset 4. Les fils d'Israël ôtèrent les Baals et les Ashtoreth et servirent l'Éternel seul. Je crois que c'est la seule fois où véritablement Israël est revenu à lui-même. Qu'est-ce que c'est que servir les Baals et les Ashtoreth? C'est ne pas chercher Christ. Le temps manque, mais je vous en supplie, reprenez le début de Juges 10. Il y a 7 mentions des faux dieux. Finalement, je crois qu'elles y sont toutes. Tout ce qui nous accable, ces doctrines qu'on est en train d'essayer de nous faire croire, ça n'est pas vrai. Le chrétien n'est pas un chrétien terrestre. On ne va pas jouer à la politique pour démontrer que c'est le royaume de Dieu maintenant. Le royaume est en mystère. N'y aurait-il pas un cœur parmi nous pour résister à ces choses quand même? Ça n'est pas un manque de grâce. il y a des moments où il faut quand même être ferme. Il ne faut pas manquer de grâce, mais il faut quand même rester dans la vérité. Ne sortez même pas de l'écriture. Regardez les choses, la doctrine de Balaam, l'arianisme. Constantin était un aria, était tombé dans l'arianisme. Les Nicolaïtes, c'est le mélange du bien et du mal. La doctrine de Balaam, les gnostiques qui ont fait souffrir l'Église, et qui, c'est ce qui explique l'Épître aux Colossiens. Mais toutes ces choses, c'est un danger immédiat pour nous. Ce n'est pas pour demain, pour les frères d'avant, c'est pour maintenant. Alors, que faudrait-il faire? Il faut laisser tout de côté pour servir l'Éternel seul. Mais maintenant que le peuple est véritablement restauré, il ne reste plus qu'une chose, la seule, et qui est complète. Ce n'est pas les pleurs de Bokim qui pleurent les bénédictions perdues. À Bokim, il n'y avait pas véritablement d'humiliation, c'est la bénédiction perdue. On s'est rendu compte que Dieu avait été à Gilgal et qu'il était maintenant à Bokim. Mais le peuple n'est pas restauré, le peuple est restauré à Mitzpah. Et que fait-il? C'est très simple. On a écrit ces choses, dans quelle mesure les avons-nous réalisées? C'est l'entête de l'être qui a été publié parmi nous. Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpah, chapitre 1 Samuel 7, versets 5, 6 et 7. Assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous, et ils s'assemblèrent à Mitzpah, et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là et dirent, nous avons péché contre l'Éternel. Voilà le véritable travail de repentance dont on a parlé hier soir. Ce changement de disposition de notre cœur à l'égard de Dieu. Il fallait d'abord mettre de côté les idoles, il faut abandonner ses fautes et les confesser, et on obtient miséricorde. Et l'expression de l'eau répandue, c'est l'expression de la vraie humiliation. Elle est tellement réelle, cette expression, que le Seigneur même, dans l'esprit, par l'esprit prophétique, au psaume 22, est obligé de dire, dans l'angoisse de la croix, « Je suis répandu comme de l'eau et tous mes os je déjoigne. » Nous sommes répandus comme de l'eau qu'on ne peut pas recueillir sur la terre, est-il dit en 2 Samuel 14, je crois. Voilà l'expression de la vraie humiliation. Alors les ennemis servent de près Israël, les Philistins arrivent. Que fait-on? On offre un holocauste. Et tout se passe bien, puisque c'est Dieu qui combat pour son peuple. Alors, Ebenezer, mon cher frères et sœurs, que le Seigneur nous donne cet Ebenezer, cette pierre de secours, qu'il nous donne d'écouter. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Recherchons ensemble la présence du Seigneur Jésus. Le Seigneur est fidèle, soyons encouragés, parce que si nous avons été infidèles, lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde et nous restaure.